Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Et ou alors, j'ai pas bien compris. Non, justement, une dette, c'est un stock, on est d'accord, c'est l'ensemble des déficits qu'on accumule pendant des années. Donc un stock, il faut le comparer à un autre stock et pas un flux, et donc pas un revenu. Donc déjà le comparer au PIB qui est un flux, c'est à mon sens,
ça n'a pas trop de sens,
une hérésie.
C'est mélanger des pommes et des bananes.
Alors, en plus, mettre une règle sur un ratio qui a aucun sens. Enfin, moi j'ai appris en première année de statistique, d'accord, qu'il fallait faire stock sur stock ou flux sur flux, d'accord. Donc le stock, au contraire de dette, il faudrait le faire sur, puisque allez, la maturité de la dette publique c'est 8 ans et demi, on pourrait faire sur 8 ans et demi de PIB. Alors là, d'un coup, votre dette, elle est divisée par 8,5, hein, d'accord ? Et donc, on n'aurait plus beaucoup de problèmes. Donc, non, le remettre sur un autre déficit. Non, encore une fois, la dette, là aussi, le deuxième élément qui m'agace sur ce ratio de dette sur PIB, c'est qu'on regarde que le passif, ce qu'on a dépensé, et on ne regarde pas est-ce qu'on a accumulé des actifs en face. Vous voyez, jamais on fait ça, quoi. On devrait regarder au moins une dette nette. Est-ce qu'il y a des actifs à mettre en face de ce passif ? Et là, je renvoie cet auditeur au site de l'INSEE, et qui tape compte des administrations publiques, d'accord ? Et il verra le passif, c'est 110 points de PIB, et il regardera les actifs qu'il y a en face. Et il aura peut-être une bonne surprise, et il verra qu'il y a plus d'actifs que de passifs, et donc les administrations publiques ont des actifs nets positif, d'accord, ça va plutôt le rassurer, je pense.
Je peux rajouter quelque chose parce que moi j'entends souvent, ça ne veut pas dire que la dette c'est un bien, c'est pas du tout ce que dit Eric d'ailleurs, mais il y a cette espèce de cri de désespoir de tel ou tel, je ne cite personne, qui disent l'enfant qui naît à 25 000 ou je ne sais pas, les chiffres. On oublie de dire en même temps que papa et maman ont acheté un bien immobilier, que ce bien immobilier a pris de la valeur. Donc on ne fait jamais la comparaison actif-passif, et je trouve que tu remets bien les choses en place.
Anne-Sophie, est-ce qu'on va réussir à éviter les hausses d'impôts, à votre avis ?
Alors, en tout cas, le gouvernement n'est pas sur cette ligne, hein. Alors, la Cour des comptes, déjà, dans son rapport, parle de 3 milliards de hausses d'impôts un peu déguisées cette année, avec des niches qui seraient rabotées, avec des subventions ou des aides qui seraient moins importantes que prévues. Donc, on va sûrement y aller, mais pas des hausses d'impôts, par exemple, de TVA, d'IS, d'IR, enfin, des hausses massives. En tout cas, je pense que politiquement, ce sera un petit peu compliqué. Peut-être qu'on y sera forcé, mais on n'est pas encore sur ce chemin. Quand on dit, en effet, sur la dette, je pense que la question de votre auditeur, c'était aussi l'idée de dire, bah voilà, on paie beaucoup d'impôts, alors pourquoi on a cette situation budgétaire par rapport notamment à nos partenaires européens ? Et par exemple, on voit la situation de l'Espagne, on peut quand même apprécier qu'ils ont une bonne gestion, et pour l'instant, en termes de finances publiques, ils ont un 3% qui pourrait avoir lieu, donc de déficit public, dès l'année prochaine. Pareil, l'Italie, même s'ils sont plus endettés que nous, vont être en excédent primaire dès l'année prochaine. Donc je pense que la question, c'est plus, alors qu'on paie quand même beaucoup d'impôts et qu'on est censé bien gérer, pourquoi on n'a pas des résultats qui s'approchent de nos partenaires européens ou une meilleure gestion ? Je pense que c'est ça qui est sous-jacent. Et là aussi, il faut quand même le rappeler, parce qu'on critique beaucoup, mais on oublie vite, on a été dans le Covid, un des pays, le gouvernement a eu une action des plus généreuses, que ce soit pour les ménages ou pour les entreprises, que ce soit en termes d'énergie ou en termes de conserver l'emploi. Et donc forcément, c'est normal à un moment de le payer quand vous prenez 20 points de dette sur PIB, c'est ce qu'il y a eu également dans les autres pays, mais nous tout de même plus. Donc c'est vrai que ça nous a permis de ne pas être en récession, et là aussi il faut regarder ce qui est en face, mais aussi le fait de la croissance. On n'a pas été en récession l'année dernière, on a eu un des taux de croissance les plus élevés de la zone euro, donc ça a payé. Alors bien sûr, c'est du contrefactuel, donc c'est plus difficile à évaluer, l'Allemagne était en récession, et donc forcément ça a un coût qu'aujourd'hui on paie.
Eric, vous n'avez pas l'air complètement d'accord.
Non, parce que je ne suis pas sûr d'avoir les mêmes chiffres. Le déficit italien cette année, enfin en 2023...
Non, l'année prochaine en excédent primaire.
Cette année, en 2023, il est de 7,2%. Non, mais 7,2%.
Oui, l'année prochaine, je parle pour 2025, pour le solde primaire. Je ne parle pas de
2025.
En 2023. C'est ce que je disais l'année prochaine.
Oui, d'accord, mais pour l'instant, il a complètement surpris. Il est de 7,2%.
Oui,
d'accord, donc il n'est pas
2023.
Du tout en primaire. Non, mais d'accord. Mais
donc... Je parlais du solde primaire pour 2025.
Du coup, est-ce
on
parle de solde primaire.
Non, mais oui, d'accord. Non, mais alors, ça, c'est le premier point.
C'est
le premier point. Le deuxième point,
sur
lequel je ne suis pas du tout d'accord, c'est qu'on aurait plus dépensé en France qu'ailleurs. Alors, juste. Non, mais juste, alors, ok, je vous ai laissé parler. 1,5.
Il faut réagir aussi.
Mais regardez, ok. l'excès, en 2019, l'Allemagne était en excédent de 1,5. Aujourd'hui, il est en déficit de 2,1. 1,5, 2,1, 3,6% de dégradation de leurs finances publiques. La France, 2,4, 5,5. 3,1, donc moins de dégradation en France.
Parce qu'on a eu de la croissance.
De déficit. L'Italie, passée de 1,4 à 7,2, quasiment 5 ans. L'Italie a fait une impulsion budgétaire gigantesque. Ils ont de la croissance, c'est parce qu'ils ont mis à peu près, là, les chiffres sont sortis là, 200 milliards dans un super bonus pour la rénovation. Ils l'ont fait. Ouais, c'est l'Italie qui a fait la plus grande impulsion budgétaire. Et quand vous regardez tous les pays, en gros, tous les pays ont vu leur dégradation, leur situation financière. Et la France, pas plus qu'un autre pays. Pas plus qu'un notre pays, regardez, moins que l'Allemagne. Après, vous pouvez dire, il y a eu moins de croissance, mais l'impulsion budgétaire, quand vous regardez l'impulsion budgétaire, le déficit structurel, c'est bien plus dégradé en Allemagne qu'en France. Regardez juste les chiffres et vous verrez qu'il n'y a pas eu plus d'impulsion, donc ce n'est pas la France qui a fait le plus grand impulsion.
Anne-Sophie voudrait répondre et ensuite Jean-Hervé.
Par rapport à l'Italie, mon chiffre, c'était le chiffre de 2025 pour le solde primaire. Donc on ne parlait pas des mêmes choses, mais on pouvait faire une prévision.
Vous pouvez faire une erreur de prévision, vous êtes d'accord? Prenons les chiffres d'aujourd'hui.
Oui,
la prévision
ce
2025.
Que je disais, c'était le chiffre en 2025. Donc,
que vous prévoyez.
La prévision.
Oui, mais la prévision, c'est sans doute fausse.
Peut-être, je ne suis pas la seule à le dire. Dans cette affaire, l'économie, c'est une question beaucoup de confiance. On l'a vu pour la jeunesse, on l'a vu pour tous les sujets. Et c'est vrai que le discours qui est quand même sous-jacent à cette opération, c'est les déficits publics, on en a toujours beaucoup eu. On va devenir vertueux, tout le monde veut devenir vertueux, mais la réalité, c'est est-ce que j'en ai pour mon argent? Et comme le discours est très négatif sur la formation, l'éducation et sur la santé, qui sont quand même deux choses très importantes, on a le sentiment qu'il y a un déséquilibre entre la réalité de ce qu'on paye et la réalité de ce qu'on reçoit. Je rappelle juste aux gens que quand on va à l'hôpital, toute personne qui, dans son entourage ou soi-même, a des grosses difficultés de santé, on oublie qu'on arrive, tout ça c'est gratuit. C'est extraordinaire. Hein. Pas pour rien qu'il y a 12% du PIB qui sont consacrés à la santé. Sur l'éducation, c'est là où le gouvernement devrait être beaucoup plus, j'allais dire, clair dans ce qui est dit. Peut-être, il faut évidemment essayer de résorber les déficits, mais surtout essayer d'adapter et transformer, non pas ces réformes, que ce mot de réforme qui est absolument insupportable, mais essayer de transformer notre système d'éducation, lui redonner de la vie de manière positive. Or, c'est pas ça qu'on perçoit aujourd'hui. Donner, au fond, la même chose sur l'organisation même du secteur public. Peut-être demander aux collectivités locales d'investir plus dans des choses qui sont utiles que de changer les pavés ou faire des ronds. Comme vous savez, on est le champion du monde. On a l'impression qu'il y a quand même des choses à faire qui pourraient, dans un discours beaucoup plus général, pourraient, en fait, concilier le fait qu'on a des déficits et qu'il faut surtout pas casser la croissance, et à la fois que l'argent qui est utilisé, il est utilisé de manière la plus efficace, ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui.
On va rapidement parler du droit de grève, on a juste quelques minutes. Le Sénat s'est prononcé en faveur d'un encadrement du droit de grève. Le gouvernement, on le sent bien, marche sur des œufs à l'approche des Jeux Olympiques. Est-ce que c'est une bonne idée, Anne-Sophie Alsif, au prétexte que le dialogue social est un petit peu en panne en France, d'encadrer le droit de grève?
Alors, c'est vrai que quand on regarde les précédents Jeux Olympiques, il y a eu aussi ces mouvements-là. On s'en souvient à Londres, en Grèce également, dans certains secteurs, le ferroviaire, des services publics, également des grèves à l'approche des Jeux Olympiques, parce qu'on sait qu'il y a des impératifs de services, de travaux à finir et autres. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau ou d'une exception française qu'on est dans cette situation-là. Par contre, ce qui se passe en effet, c'est que vous avez, en France, il faut déjà le rappeler, le taux de syndicalisation en France est l'un des plus bas d'Europe. Dans le privé. Et dans le public, c'est surtout dans quelques secteurs, en effet, c'est important, et où il y a en effet ces négociations qui existent. Alors pourquoi encadrer? C'est pour dire, et bien évidemment, notamment pour les Jeux Olympiques, qu'il n'y ait pas de prise en otage, entre guillemets, et qu'on arrive à avoir de la fluidité. Après, c'est un petit peu, je pense, compliqué, parce que c'est vrai que d'aller tout de suite vers cette démarche, on insère tout de suite un bras de fer. Et alors, comme vous l'avez dit, on n'est pas les champions des négociations, mais peut-être que avoir eu en amont, avant d'avoir cette position, bien un peu plus de dialogue, ça aurait peut-être pu décrisper un petit peu le débat, où là on arrive, c'est vrai, avec des partenaires dans une situation où déjà on dit attention, on va tout faire pour que vous ne passiez pas grève pendant les JO. Mais encore une fois, quand vous regardez les autres pays, et avant on a déjà eu ce genre de situation, donc c'est pas inédit.
Éric Ayer, c'est intéressant. En France, la grève, c'est devenu, en tout cas le préavis, c'est devenu un levier de négociation. On dépose un préavis pour ouvrir les négociations, alors que ça devrait plutôt arriver en bout de chaîne.
Alors, dans le public et dans certaines entreprises, parce que dans le privé, je ne crois pas que ça soit ainsi. Donc, effectivement, c'est dans le public. Bon, il y a un droit constitutionnel. On pourrait essayer de dire qu'il y a aussi un droit à partir en vacances. Moi, je serais pas hostile.
Jean-Marc Daniel n'est pas d'accord. Hein. Okay. On s'est un petit peu écharpé ce matin sur la question.
Un point de désaccord. Enfin, oui, on pourrait avoir aussi un droit de retrouver sa famille pendant les vacances. Enfin, moi, je. Et comment on arrive à, essayer de maintenir ces deux droits et que l'un n'empiète pas sur l'autre. Bon, c'est compliqué. J'ai pas la solution. Effectivement, ça serait dans la concertation, ça serait dans la négociation. Aujourd'hui, on voit bien que ça ne fonctionne pas comme cela. Donc, il va falloir qu'on remette un peu ces négociations. Mais je ne crois pas que encadrer de façon dure, ça soit la solution, parce que ça va mettre plutôt le feu aux poudres. Et donc, c'est peut-être pas la meilleure façon d'aborder. Et aujourd'hui, on a l'impression que le gouvernement, ou en tout cas à certains hommes politiques, essaient de mettre un tout petit peu cette étincelle qui pourrait enflammer la société française.
Jean-Hervé Lorenzi, en Italie, il y a un certain nombre de jours qui sont sanctuarisés. Des jours pendant lesquels on ne peut pas faire grève parce qu'il y a un intérêt, que ce soit économique ou lors des départs en vacances, par exemple.
Revenons chez nous, parce que si on veut y avoir avec les histoires de l'Italie. Non, moi, tout ça est très prévisible. Je serai syndicaliste de quelque chose qui est très important pour les JO. Évidemment, je profite du moment. Alors, parfois, ils sont un peu fatigants. Je veux dire, à l'époque, les pilotes d'Air France étaient quand même épouvantables. C'était
tous les
pénis de la République.
C'était
ils n'arrêtaient pas d'expliquer leur souffrance, etc. Donc, maintenant, on ne changera pas la France et les Français. C'est comme ça. Je trouve que c'est des discussions qui sont assez inutiles. Et le Sénat est aussi dans son rôle. Ils sont conservateurs, ils ont sorti. D'ailleurs, leur texte est assez prudent, hein, limité, c'est pas plus de 7 jours. Enfin, il n'y a pas du tout de. C'est pas une déclaration de guerre.
Ouais, c'est pas une remise en cause totale du droit de grève.
Tout ça est un peu de la comédie.
Allez, on va passer à votre carte blanche. Chacun, vous avez choisi un sujet que vous voulez défendre, Eric. On va commencer sur les dernières estimations du COR, le Conseil d'orientation des retraites, qui indique. En fait, on va peut-être devoir passer par une autre réforme.
Oui, alors non, moi ce qui m'intéressait plus exactement, c'était, vous voyez, on a changé de président du COR, et il y a eu...
Gilbert Sept est
arrivé, et il y a eu des petites tensions, parce qu'il veut mettre plus qu'un seul scénario sur la tendance de productivité. Et donc en disant, voilà, ça va être 0,7, et effectivement, la crainte, c'est qu'avec 0,7, du coup, il y aurait... Le compte n'y serait pas. Moi, il me semble que la meilleure des réformes que l'on pourrait avoir, c'est de supprimer cette histoire de notre système de retraite dépend des tendances de productivité. Entre nous, personne aujourd'hui n'est capable de dire quelle sera la tendance de productivité du travail au cours des 20-30 prochaines années. Et penser que notre système de retraite dépend de finalement une variable qu'on ne peut pas déterminer est une catastrophe. Pourquoi notre système dépend de la tendance de productivité? Uniquement parce qu'en 1993, il y a eu une réforme, la réforme Balladur, qui a désindexé, d'accord, les retraites sur les salaires, il a indexé sur les prix, d'accord, alors que, vous voyez, donc vous avez les dépenses qui dépendent maintenant des prix, alors que les recettes dépendent des salaires, donc de la productivité. Et donc il y a un écart, et bien sûr, plus il y a de la productivité, plus les recettes sont importantes et plus importantes que les dépenses, et donc vous allez, du coup, rendre votre système finalement soutenable, et moins il y en a, c'est l'inverse, d'accord. Ça, c'est, pour moi, la grosse erreur. On aurait dû laisser l'indexation des pensions sur la productivité et ensuite jouer sur le taux de remplacement. Vous voyez, là, aujourd'hui, on veut que le système soit rentable en baissant, finalement, la pension des retraites parce qu'elle va être moins indexée que les salaires. C'est pas tolérable. Vous voyez, il faut que les gains de productivité aillent aux actifs et aux inactifs. Et donc, il faut simplement dire, si c'est pas soutenable, c'est le taux de remplacement et l'assumer, dire, voilà, le taux de remplacement va être plus bas ou on travaille plus longtemps. Et donc, si j'étais Gilbert Sedd, je dirais, allez, on change, la bonne réforme, c'est on réindexe et comme ça, on arrête ces discussions sur est-ce que les tendances c'est 0,7, 0,5, 1, d'accord ? Et on a un système qui est beaucoup plus visible à long terme.
Le fait d'avoir un scénario central dans le Conseil d'orientation des retraites maintenant, c'est peut-être une simplification qui était nécessaire, Jean-Hervé. Tout le monde, au moment du débat sur la réforme des retraites, tout le monde trouvait midi à sa porte dans le rapport du COR.
Oui, juste aussi bien les opposants que ceux qui étaient en faveur. Je suis très en accord avec ce qu'Eric vient de dire. Je trouve que, pour avoir beaucoup travaillé sur ces... participer à beaucoup de travaux sur ces sujets, je trouve que le problème du corps, le corps c'est un lieu de concertation, c'est un des rares endroits où les gens discutent entre eux, comme était le plan. Alors, Gilbert Sedd est en train de déclencher une guerre nucléaire dans ce truc-là, je trouve que c'est absurde, je trouve qu'avoir plusieurs scénarios permet à tout le monde de trouver un peu sa dispositif. C'est un débat, l'histoire de la rémunération des non-actifs, enfin de la rémunération des retraites. Donc, au fond, le corps avait ce rôle-là. Je trouve qu'il ne devient pas le lieu de l'expertise absolue. Je n'y crois pas. Donc, je n'y crois pas. Deuxièmement, je suis d'accord avec toi sur l'idée que cette différence entre les actifs et non actifs était stupide. Et évidemment, alors j'arrive à ma carte blanche, l'affaire
sur le coût du vieillissement.
Le coût du vieillissement, très rapidement, c'est plus important que le coût de la décarbonation. Alors, c'est le grand déni de la République. On a eu une loi qui, je crois, s'appelait Bien vieillir. C'est une loi absolument inintéressante, enfin, sans intérêt, sans contenu. La réalité, c'est qu'on est en train de découvrir que le coût du vieillissement, d'abord, c'est majeur sur la croissance et sur la productivité. C'est évident que vieillir, des sociétés vieillissantes, c'est deux sociétés qui ont des croissances plus faibles, sauf à trouver de la technologie qui n'est pas encore là. Et donc, nous, notre calcul, là, je parle d'une chaire transition démographique, c'est que en 2030, alors c'est toujours une estimation, donc à prendre avec beaucoup de précautions, mais c'est 90 milliards annuels de plus. 90 milliards. L'accroissement des retraites, c'est absolument géant. La dépendance, 50 milliards. La dépendance, c'est 20 milliards. Les coûts divers et variés pour les aidants, pour tout le BINS, c'est 20 milliards aussi. Alors, c'est peut-être pas 90 milliards, mais c'est absolument géant. C'est le problème majeur qui est devant nous, avec la décarbonation. Et donc, il faut commencer vraiment à en discuter. Moi, je suis pour qu'on discute aussi de qui paye. Je ne suis pas opposé du tout à l'idée qu'une partie de la dépendance soit prise en charge par les retraités, par les gens qui sont concernés. Et alors, je me suis fait insulter deux ou trois fois, mais c'est un bonheur absolu, c'est que la CSG des retraités soit inférieure à la CSG normale, alors que c'est évidemment, sur les 12% de dépenses de santé du PIB, il y en a presque la moitié qui sont dédiées aux vieux, aux seniors, que la CSG soit plus faible est absurde. Donc, je suis assez pour que là, je ne sais pas si c'est l'augmentation d'impôts, de ceci ou de cela, mais je suis convaincu qu'il faut rétablir une sorte de vérité, pas pour les petites retraites, pour préserver les petites retraites. Ça, c'est un problème social majeur. Mais derrière, des gens comme moi, je veux dire, je peux payer la CSG comme tout le monde. Je veux dire, c'est absurde.
Oui. Eric, vous n'avez pas l'air...
Suis d'accord avec quasiment tout ce qu'a dit Jean-Hervé. Peut-être que le point pourquoi la CSG des seniors est plus faible, d'accord, c'était parce qu'à l'époque, il faut se souvenir, c'était un bascule, cotisation vers CSG, donc on avait baissé les cotisations et augmenté la CSG, d'accord, et puisqu'on avait baissé les cotisations pour les salariés, ben, ils avaient un avantage, et donc c'est pour ça qu'il y a eu une augmentation de la CSG, alors qu'ils ne payaient pas de cotisations, les retraités, donc en gros, c'était à cause de cela. Alors, que maintenant, on dise, on va demander un effort supplémentaire aux retraités, d'accord, et augmenter leur CSG,
qui ont des bonnes retraites.
Pourquoi pas, mais bon, il y avait une logique à ce qu'il y ait une différence. On oublie parce qu'il y avait une contrepartie que n'avaient pas les retraités. Mais après, moi, je suis d'accord pour dire qu'il va falloir augmenter la CSG, sans doute. Et vous voyez, quand on a un ministre de l'économie qui fait déjà son programme en disant on préfère faire une TVA sociale, moi, je pense qu'une CSG sociale serait un peu plus intéressante qu'une TVA sociale.
Pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron a mis le dossier sous le tapis quand il est arrivé au pouvoir? Il voulait s'attaquer au vieillissement et au coût du vieillissement de la population?
Parce que c'est un sujet qui est très compliqué, parce que au fond, le rapport entre vieillissement que le monde entier vit et que la France va vivre apparaît comme finalement, j'allais dire, un sujet assez insoluble. Il a fallu que l'histoire des taux de natalité émerge pour que brutalement on commence à se dire mais qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, qu'est-ce que c'est qu'une société de vieillissement. C'est une société qui est, un, qui coûte cher, parce que retraite et santé ça coûte cher, et c'est légitime. Deux, c'est une société qui est quand même pas très innovatrice, ouais. Parce que c'est les garages avec les innovations, c'est pas les vieux qui y sont. Et troisième sujet, le plus important, c'est que on a besoin d'énormément d'investissements, donc beaucoup d'épargne utilisée. Or, les seniors sont averses au risque, il n'y a pas besoin d'être prix Nobel d'économie pour le savoir, et évidemment, ils sont, j'allais dire, une sorte de frein pour pouvoir investir dans le risque, donc dans ce qui fera la croissance de demain.
On termine avec la carte blanche d'Anne-Sophie Alsif. Vous souhaitiez parler du rapport Étincelle qui a été remis à Olivia Grégoire. Le programme Étincelle, on le rappelle, c'est accompagner les PME prometteuses pour qu'elles puissent devenir des ETI.
Oui, tout à fait. Donc, c'est une étude qu'on a menée donc, au sein de notre cabinet pour essayer de voir. Alors, c'est un serpent de mer. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits sur ce sujet. Mais de dire, voilà, la majorité des entreprises en France, à 95%, ce sont des PME. On a beaucoup moins d'entreprises de taille intermédiaire que les Allemands ou que les Italiens. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter la taille de ces entreprises? Qu'est-ce qu'on a pu voir déjà? On a pu voir qu'en France, c'est vrai que les PME donc, sont entreprises de plus petite taille. Et lorsqu'elles deviennent ETI, majoritairement, ça se fait par de la croissance externe, c'est-à-dire qu'elle rachète d'autres entreprises. Donc ce n'est pas de la croissance organique comme par exemple ce que l'on peut avoir en Italie, mais notamment en Allemagne, qui sont des pays plus industrialisés que nous.
Donc quoi, on a un passage à l'échelle qui est plus difficile en France.
Alors, plus difficile et surtout qui se fait par le fait qu'on rachète une autre boîte. Et souvent c'est plus difficile parce que les fusions ne se passent pas toujours bien au niveau de la direction, au niveau de l'organisation, et donc ça peut être compliqué sur le moyen long terme de faire encore grossir quand on est vraiment uniquement sur cette croissance organique. L'autre élément, c'est sur l'aspect familial. Vous avez beaucoup de PME qui sont familiales, et là aussi on parlait d'une aversion au risque, donc qui existe également dans les autres pays, mais où pour beaucoup de ces entreprises, le but c'est plutôt de conserver la propriété, la détention du capital, de conserver son entreprise, même si on grossit, on va dire, moins rapidement. En tout cas, on est dans une logique de déjà conserver un petit peu le patrimoine familial. Donc, c'est des choses qu'on a pu mettre en avant. Et là, c'est vrai que dans cette étude, l'idée de dire, c'est que on va avoir, et donc il y a la promotion qui a été mise en avant donc de ces entreprises-là, et par rapport à leurs particularités, à leurs critères, qu'est-ce qu'on peut faire, notamment au niveau du gouvernement, parce que c'est vraiment un engagement, pour les faire croître. L'autre élément, c'est vraiment l'export. Comme on est un pays qui est désindustrialisé, malheureusement, notamment par l'Allemagne et l'Italie, eh bien forcément, on a un nombre d'entreprises qui va à l'export qui est moins important. Et même quand on y va, on a moins de solidarité entre les donneurs d'ordre et les sous-traitants, notamment en termes de fixation des prix. Et donc, c'est beaucoup plus difficile dans certains secteurs. On le voit quand les Français vont à l'international, par rapport aux Italiens, mais surtout aux Allemands, le prix n'est pas la seule question, alors que dans beaucoup de nos secteurs, en tout cas en France, c'est le cas. Et donc, pour beaucoup de ces entreprises, pour aller à l'international et donc avoir une taille critique, là aussi, c'est un coût qui est important. Donc, voilà, c'est un petit peu ce bilan-là, et d'avoir des actions mises en place par le gouvernement pour faciliter ça. Encore une fois, c'est un constat qui était assez connu, mais c'est bien de montrer la démarche et voir comment on peut améliorer cette situation.
Rapport remis donc à Olivier Grégoire, peut-être une réaction rapide, Eric Ayer.
Non, mais oui, alors c'est vrai que c'est une question qui est pas nouvelle, effectivement, comment on arrive à avoir un tissu productif qui pourrait aller à l'export. Moi, je crois que globalement, enfin alors après c'est ma casquette plutôt de macroéconomiste, aujourd'hui, vous voyez, il y a peut-être un sujet européen. L'Europe est excédentaire, trop largement excédentaire, à des excédents commerciaux qui dépassent les 3 points de PIB depuis 2009. D'accord? Donc ça fait plus de 10 ans qu'on est en excédent gigantesque. Pourquoi on est en excédent? Parce que tous les pays, à part la France, sont en excédent. On ne peut pas, et ça je pense que c'est quand même un message qu'il faut faire passer, on ne peut pas tous être excédentaires. Et donc, les excédents européens, en fait, c'est un déséquilibre. C'est un déséquilibre, et on le retrouve, du coup, en déficit aux États-Unis, au Royaume-Uni, et donc on entre dans une guerre commerciale. Aujourd'hui, globalement, si il y a une guerre commerciale, c'est à cause de l'Europe, qui est trop excédentaire. Et vous voyez, aujourd'hui, l'euro devrait être à 1,35 et il est à 1,09. Donc globalement, vous voyez, c'est vrai que c'est bien de se dire, nous, comment on peut faire pour regagner des parts de marché et être excédentaire? La question qu'on doit se poser, c'est sur qui on va gagner? Sur qui on va gagner? Parce que c'est un jeu à somme nulle. Et aujourd'hui, plus personne ne va être en déficit. Et ça, c'est un vrai souci. Et donc peut-être faut aussi regarder du côté de l'Allemagne, du côté des Pays-Bas, qui sont à 6, 7, 8 points d'excédent de façon structurelle. On ne peut pas rester avec ces excédents structurels. C'est un déséquilibre.
Avec la conséquence que l'épargne excédentaire de notre pays, de la zone euro, au lieu de se réinvestir en Europe, ce qui serait quand même très nécessaire, parce qu'il y a vraiment besoin d'investissement, va soutenir les déficits américains. Donc, on a quand même un problème de notre position, et notamment de l'Allemagne et des Pays-Bas.
Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Anne-Sophie Alsif, chef économiste du cabinet d'audit BDO France. Jean-Hervé Lorenzi, fondateur du Cercle des économistes, président des rencontres économiques d'Aix.
5, 6, 7 juillet, avec beaucoup de jeunesse.
Avec beaucoup de jeunesse, on l'a bien compris. Et puis Eric Ayer, merci beaucoup, directeur du département.
L'expression la plus évidente.
Directeur du département analyse et prévision à l'OFCE. À suivre, Tout pour investir, Lorraine Goumeau.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business. C'était votre rendez-vous avec Sage. Sage, la gestion intelligente qui réinvente la finance. Ce programme est à retrouver à la demande en podcast sur l'appli BFM Business et sur les plateformes de streaming. Rendez-vous sur BFM Business. Investir dans des entreprises non cotées au fort potentiel de croissance est maintenant accessible au plus grand nombre. Inside Private Equity vous emmène au cœur de cette classe d'actifs. Partez à la découverte des plus grands fonds mondiaux et de ces sociétés qui façonnent le monde de demain. Inside Private Equity, le rendez-vous pour investir dans l'économie réelle avec Stéphane Pedrazzi. Mercredi 24 avril à 21h30 sur BFM Business.